l'Oiseau Blanc. Philippe Trousselard, bonsoir. J'entame aujourd'hui avec vous une nouvelle émission sur le thème de l'aéronautique. Cette aéronautique qui baigne notre ville de Toulouse et son agglomération. Je voudrais l'approcher en la reliant toujours avec cette nécessaire passion qui en est au cœur et avec vous commencer par partager ce désir qu'est celui de voler. Comment regarder la mer sans observer les oiseaux ? Charles Trenet, dans sa chanson « La mer », ne nous dit-il pas « Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. » Comment regarder la montagne sans ne pas égarer son regard vers le ciel ? Dans sa chanson « La montagne », Jean Ferrat nous invite par ses vers. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver ? Mais alors, comment regarder notre belle région toulousaine, me direz-vous ? Eh bien, aujourd'hui, tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions sont plus hauts. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles ? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse ! Oui, nous sommes ici à Toulouse, près des Pyrénées, pas si loin de la Méditerranée, de l'Atlantique. Nous y sommes à un vol d'aile, j'oserais dire. Oui, vous l'avez compris, je ne peux dissocier la symbolique du vol de celle de l'oiseau, de celle de l'avion, de celle de la navigation, de celle de ce monde en mouvement qui l'entoure. En lisant ce livre de Nietzsche, dont le titre est « Humain, trop humain », livre qu'il a écrit en 1878, j'ai personnellement découvert cette phrase alors qu'il aborde le questionnement relatif à l'apprentissage de plusieurs langues. Questionnement qui était alors des plus pertinents quand on voit ce qu'est devenu aujourd'hui d'ailleurs la langue anglaise. Alors je le cite. « Il faut avouer que l'étude de plusieurs langues est un mal nécessaire. Poussé à l'extrême, ce mal forcera l'humanité à trouver un remède. Et dans un avenir lointain, il y aura pour tout le monde une langue nouvelle qui servira d'abord de moyen de communication dans le commerce, ensuite dans les relations intellectuelles, aussi certainement qu'il y aura un jour une navigation aérienne. » Fin de citation. Alors voyez-vous, en 1878, Nietzsche écrivait « Il y aura un jour une navigation aérienne ». Et pourtant, nous n'étions alors qu'à l'époque du balbutiement de l'aviation, avec les premières tentatives de vol pour des planeurs. Quant au moteur, il ne servait qu'à faire voler quelques modèles réduits. Le terme « aviation » avait été inventé 15 ans avant par Gabriel de la Landelle, qui lui avait construit un prototype d'hélicoptère à moteur à vapeur. Il était l'ami de Jules Verne, et Jules Verne s'en est inspiré dans ses récits. Dans le livre « Aviation » ou « Navigation aérienne sans ballon », donc écrit par Landelle, publié en 1863, le mot « aviation » semble apparaître pour la première fois. Et c'est quelques années plus tard, en 1875, que Clément Ader l'utilise pour désigner ses appareils volants. Nous comprenons mieux pourquoi Nietzsche parle alors en 1878, lui-même, de navigation aérienne. Une voie vers le futur était ouverte. Avec Clément Ader, nous voilà à nouveau en région toulousaine, puisqu'il est né à Muret le 2 avril 1841. Le 2 avril, c'est une bonne date. C'est celle également de votre serviteur. Clément Ader est mort à Toulouse le 3 mai 1925. Ingénieur français, pionnier de l'aviation, il aurait été le premier à faire décoller un engin motorisé plus lourd que l'air en 1890. Mais malheureusement, les preuves manquent pour montrer que celui-ci aurait effectivement quitté le sol. Nous retrouvons avec Clément Ader ce lien avec le vol de l'oiseau, même si celui qui l'a inspiré n'était en fait qu'une pauvre chauve-souris. En effet, il s'appuya sur le principe de sa voilure pour mettre au point ses prototypes. Il a eu cette vision qu'une fois le vol maîtrisé, une aile rigide, inspirée de celle des oiseaux, serait plus efficace et plus solide. Clément Ader avait compris qu'il ne fallait pas chercher à reproduire le battement des ailes d'oiseaux, mais adopter le concept de voilure fixe. C'est lui qui aurait extrait ce mot « avion » du terme « aviation » qui avait été inventé par Gabriel de Lalandelle. D'ailleurs, en latin classique, « oiseau » se dit « avis ». Et nous pouvons même rajouter ce mot latin « axio » qui veut dire « action », l'aviation. Vous l'avez compris, chères auditrices, chers auditeurs, me voilà donc parvenu à cette image du rêve de voler, qui peut être à l'origine d'une passion. L'avion ne serait-il finalement qu'un oiseau mécanique en action ? Dans cette poésie de Prévert que nous allons maintenant écouter ensemble, l'oiseau, pour faire le portrait d'un oiseau. Cette poésie récitée par Annie Girardot, imaginez y remplacer le mot « oiseau » par « avion ». Et ensemble, nous allons greffer une problématique imagée de cette navigation aérienne si bien anticipée par Nietzsche dès 1878.
Pour faire le portrait d'un oiseau, à Elsa Henriques. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite. Mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre, s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Parfois, l'oiseau arrive vite, nous dit Prévert. Vous voyez que la navigation aérienne est arrivée vite, comme l'oiseau. Rappelons-nous comment était appelé le Concorde, le bel oiseau blanc. Mais cette expression nouvelle n'était pas nouvelle, puisqu'elle nommait déjà cet avion biplan, c'est-à-dire avec deux ailes superposées, piloté par Charles Nagesser et François Colly, avion qui a disparu le 8 mai 1927 lors de la première tentative de traversée aérienne de l'Atlantique Nord sans escale entre Paris et New York. Paris, c'était le Bourget à l'époque. Ils avaient décollé tôt le matin, vers 5 heures. Une anecdote. Dans un souci d'économiser du poids et de gagner en aérodynamisme, le train d'atterrissage de cet avion était conçu pour être largué après le décollage. L'arrivée prévue à New York était un amarrissage devant la statue de la Liberté. Mais cet oiseau blanc de Nagesser et Colly disparut. Ils n'arrivèrent pas à destination. Là, à New York, là où une foule importante les attendait pourtant le lendemain de leur départ. Cette disparition est considérée comme l'une des grandes interrogations de l'histoire de l'aviation. Moins de 2 semaines après cette disparition, le 21 mai 1927, l'Américain Charles Lindbergh réussit, quant à lui, le premier cette traversée de l'Atlantique Nord. mais cette fois-ci dans l'autre sens, de New York au Bourget, New York vers Paris, à bord du Spirit of St. Louis. Il parcourt les 6300 km à la vitesse de croisière de 180 km/h, en 33 heures et 30 minutes. Dans le souci d'alléger l'appareil et donc d'emporter un maximum de carburant, Lindbergh, alors âgé de 25 ans, n'embarque avec lui que le strict nécessaire, en se passant notamment de parachute et de radio. Son avion est surchargé à l'extrême par l'ajout de réservoirs destinés à augmenter son autonomie de vol. Pour des raisons de sécurité, car Lindbergh ne veut pas se retrouver écrasé entre le moteur et le réservoir en cas de crash, et aussi pour minimiser le déplacement du centre de gravité au cours du vol, le réservoir principal est situé devant lui, entre le moteur et le cockpit. Et tout cela ne permet aucune visibilité vers l'avant. Aussi, pour voir devant lui, Lindbergh utilise un périscope installé sur le côté gauche de l'appareil. Pour naviguer, il se sert de ses instruments de bord, altimètre, gyroscope, compas magnétique terrestre. Et il dispose d'une fenêtre de chaque côté, lui permettant de voir, sous lui, en basculant légèrement, l'appareil. Lindbergh est mort en 1974. Pourquoi cette date? Eh bien, c'est-à-dire 5 ans après le premier vol du Concorde. Oui, le premier décollage du Concorde a eu lieu le 2 mars 1969. Qui ne se souvient pas de cet événement, surtout pour ceux qui ont eu cette chance d'être alors dans l'environnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ou tout simplement devant leur télévision, ce qui était mon cas. Seulement 42 années s'étaient écoulées depuis cette première traversée de l'Atlantique Nord par Charles Lindbergh, lui qui, durant ce vol, s'assoupissait et se réveillait quand son avion frôlait les vagues comme un goéland à la recherche de sa nourriture. L'avion avait été délibérément conçu sur un profil aérodynamique instable, de façon que ses mouvements le réveillent s'il venait à s'endormir. Ce que je veux ici particulièrement montrer, c'est combien l'avion est arrivé finalement vite, vite comme l'oiseau. Cet avion est arrivé à celui que nous connaissons aujourd'hui. Revenons ensemble sur quelques dates choisies dans l'histoire de l'aviation, qui peuvent illustrer cette progression très forte de ce nouveau moyen de locomotion qui est devenu aujourd'hui un des moyens importants de transport. Alors, ces quelques dates. Le 17 décembre 1903, c'est le premier vol d'un avion à moteur avec les frères Wright sur leur avion, le Flyer. Quelques années plus tard, le 25 juillet 1909, Louis Blériot traverse la Manche sur son Blériot 11. Nous arrivons quelques années encore après, le 21 mai 1927, à cette traversée de l'Atlantique Nord par Charles Lindbergh dont nous venons de parler. Le 27 août 1939, c'est le premier vol d'un avion à réacteur, le Heinekel 178. Le 14 octobre 1947, un avion franchit la première fois le mur du son. C'est celui de l'Américain Chuck Yeager à bord de son Bell X-1. Alors le mur du son, c'est quoi? Rappelons que le mur du son est un phénomène physique, aérodynamique, caractérisé par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son dans l'air, soit exactement 340 mètres par seconde, donc 1224 km heure, ou Mach 1. Alors il faut savoir que le nombre de Mach est le pourcentage de cette vitesse du son. Par exemple, si on parle d'un avion au point de Mach 0,84, eh bien cela correspond tout simplement à 84% de la vitesse du son. Quand un mobile atteint la vitesse du son dans un fluide, par conséquent comme un avion dans l'air ou l'entrée atmosphérique d'un bolide, il se produit un phénomène de concentration de l'onde de surpression qui provoque une onde de choc, cette onde de choc qui peut être entendue dans l'air. 2 années après ce premier franchissement du mur du son, de 1947, le 27 juillet 1949, a lieu le premier vol d'un avion de ligne, conçu par la société britannique Havilland, le Havilland DH-106, dit Comet. 1949, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. L'envie de voyager s'installe plus que jamais avec une paix retrouvée. Quelques années s'écoulent et ce 2 mars 1969, 60 ans après la traversée de la Manche par Bleriot, que 60 ans. Ce 2 mars 1969 a lieu le premier vol de Concorde avec André Turcat aux commandes, décédé il y a peu, il y a 2 ans, le 4 janvier 2016, à l'âge de 94 ans. Il était secondé par Jacques Guignard, qui nous a quittés le 12 avril 1988 à 68 ans. Son ingénieur navigant était Henri Perrier, qui lui nous a quittés en mai 2012 à 82 ans. Et il y avait à bord un autre navigant, Michel Rétif, le mécanicien navigant que nous aurons le plaisir d'entendre lors de la prochaine émission dans une interview que j'ai réalisée il y a quelques semaines. Durant cette même année 1969, le 21 juillet, eh bien c'est la marche du premier homme sur la Lune, Neil Armstrong. Toujours en 69, le 9 février, donc presque un mois avant le premier vol du Concorde, c'était le premier vol du Boeing 747. Nous verrons dans l'interview de Michel Rétif, nous reviendrons sur la durée de ce vol qui a été finalement très courte, 29 minutes. Le Concorde dépasse pour la première fois la vitesse du son, c'est-à-dire Mach 1 en octobre 69, et puis Mach 2, deux fois la vitesse du son, le 4 novembre 70. Nous allons nous intéresser particulièrement à ce Concorde qui a été et qui reste la fierté de Toulouse. Son premier vol commercial date du 21 janvier 76 entre Paris et Rio avec une escale à Dakar. Le président Pompidou l'avait déjà pris deux fois avant ce premier vol. Et puis le premier vol vers New York au départ de Toulouse le 19 octobre 1977. Alors Concorde, ai-je dit Concorde ou Concorde ? Étonnons-nous de ce nom de Concorde avec un E, alors qu'il s'agissait d'un avion sous la coupe française et britannique, si je puis dire. C'est De Gaulle qui, le 13 janvier 1963, alors président français, suggère que l'avion soit baptisé Concorde avec un E. Et le 24 octobre, quelques mois plus tard, la première maquette grandeur nature du Concorde sans E est présenté. Une polémique s'ensuit sur le nom de l'avion. Le ministre britannique de la technologie, Tony Benn, met fin à la polémique en annonçant, je le cite, « Le Concorde britannique s'écrira désormais avec un E, car cette lettre signifie aussi Excellence, England, Europe et Entente ». Donnons vie à ce premier vol du Concorde, par cet enregistrement de l'Institut national de l'audiovisuel qui débute alors que l'avion est positionné sur la piste et proche de son premier décollage. Il dure 5 minutes cet enregistrement et il se termine par l'atterrissage lui-même. Alors malheureusement, ici, chers auditrices, auditeurs, nous ne disposons ici que du son dans ce document qui est également visuel, mais le son n'est-il pas déjà un beau témoignage ?
Concorde vient d'être mis en puissance, les 4 réacteurs sont à fond. J'ai à côté de moi M. Rebuffet, qui est spécialiste du centre d'essai en vol de Bretigny et qui est spécialement affecté à l'équipe de Concorde. M. Rebuffet, je crois que nous assistons maintenant à la mise en puissance complète.
Oui, actuellement, Concorde a mis pleine puissance. Vous voyez la fumée qui se dégage des réacteurs. Je pense que le lâcher des freins va intervenir dans très peu de temps.
Eh bien, nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu, je vous le rappelle, depuis 2282 jours. Il y a 2282 jours que Concorde est prévu. Et maintenant, enfin, le premier vol. Ce premier vol que 600 journalistes attendent autour de la piste et que vous tous allez voir maintenant en direct. Le voilà.
meter is on the wrong side.
Say it. Autour de moi, j'entends des cris de joie, des applaudissements.
John, give us the picture, please.
Et maintenant, à la vitesse de 350 km/h, qui était celle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Il va grimper à environ 400 mètres à la minute, 1200 pieds. Et gagner l'altitude de 3500 à 4000 mètres. Cette première phase d'essai est extrêmement importante. Ça y est, l'avion d'accompagnement a réussi à raccorder en image et nous avons Concorde en vol. Je vous rappelle que pour ce premier vol, Concorde doit voler train sorti, nez baissé. Il n'est pas question qu'André Turca remonte le train d'atterrissage ni remonte le nez. Eh bien, le général Calmel vient de nous donner les indications concernant cette dernière phase de vol. Vous voyez la magnifique image de Concorde se découpant sur fond de sol. Et autour de moi, j'entends déjà le voilà, le voilà. Je pense que nous allons le voir dans l'axe de la piste d'ici peu. Effectivement, je l'aperçois. Sur la droite tournent les deux hélicoptères de surveillance. Et voici la dernière phase. Que va faire André Turca? Concorde donc est en finale. Il semble qu'il va se poser réellement. Voilà, nous le voyons apparaître dans l'axe de la piste. Semble-t-il, je crois qu'il va faire un atterrissage simulé. Oui, effectivement, il semble un peu haut pour un atterrissage réel. Monsieur Rebuffet.
Je ne sais pas encore. C'est André Turca qui va apprécier.
Il atterrit. Il va atterrir. Magnifique atterrissage, ouverture du parachute frein. Autour de nous, des applaudissements, vraiment. Depuis si longtemps que nous attendions ce premier vol, vraiment. Autour de nous, tout le monde est heureux. Le parachute frein agit immédiatement. Monsieur Rebuffet, pour vous qui êtes un spécialiste des essais en vol, ça doit être une joie, je suppose.
Une très grande joie, oui. Mais enfin, c'est une joie, je pense, pour tous, pour toute l'équipe et pour tous ceux qui l'ont réalisé.
Lors de notre prochaine émission, nous reviendrons avec Michel Rétif sur ce premier vol du Concorde, de cet oiseau blanc. Ce premier vol qu'il a vécu avec André Turca, Jacques Guignard et Henri Perrier. Cet équipage de ce premier vol avait déjà partagé d'autres aventures, plus de 10 années auparavant. Michel Rétif nous parlera des raisons qui ont conduit à cette durée de vol un peu écourtée, du pourquoi de ce nuage de poussière à l'atterrissage sur la piste, cette piste de Blagnac qui était toute nouvelle, et puis de quelques anecdotes. Alors, après cette aventure Concorde, revenons un peu plus au présent, et toujours pour rester dans cet environnement de Toulouse-Blagnac, regardons un peu l'aventure d'Airbus qui s'est mise en place. Alors, parmi toutes les dates, notons particulièrement celle du 27 avril 2005, le premier vol de l'Airbus A380. ce plus gros avion commercial du monde, avec aux commandes Claude Lelay et Jacques Rosé. Jacques Rosé qui nous a quittés le 12 juin 2015 à l'âge de 66 ans. Eh bien, sur Occitanie Première, nous aurons l'occasion, dans cette émission, de recevoir Claude Lelay. Quelques années plus tard, le 7 juillet 2010, c'est le premier vol du Solar Impulse. Premier vol, lui, dure 26 heures. Ce projet est porté par les Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg. C'est le premier avion dont les moteurs sont alimentés uniquement grâce à l'énergie solaire. Le 24 juillet 2016, le Solar Impulse 2 achève là le premier tour du monde d'un avion uniquement propulsé par l'énergie solaire. Sachant néanmoins que cette tentative a débuté le 9 mars 2015, Bertrand Piccard et André Borschberg étaient successivement aux commandes. Alors, toutes ces années, tous ces événements que nous venons de reparcourir, finalement, seulement 116 années se sont écoulées entre le premier vol des frères White d'un avion motorisé et ce tour du monde du Solar Impulse. Oui, ce monde de l'aéronautique s'est mis en place très vite. Mais où nous a-t-il emmenés ? Où nous a-t-il entraînés ? Où nous emmène-t-il ? Où nous entraîne-t-il ? Il ne nous a pas attendus. Gilbert Bécaud nous chante cet oiseau de toutes les couleurs qui n'attend pas non plus.
Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir. Mon Dieu, qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On passe devant chez Lucho, qui me fait hé, hey, qui me fait oh. Je ne me suis pas arrêté par ton ami, je cours après. Petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. J'ai cru que je l'avais perdu, mais je l'ai entendu siffler. Et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On est arrivé sur le port. Il chantait de plus en plus fort. S'est retourné, m'a regardé. Au bout de la mer, s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager. Je suis prisonnier, dit, m'en veux pas. Hey, bon voyage, dit, reviens-moi vite, dit. Le petit oiseau de toutes les couleurs.
Comme ce petit oiseau de toutes les couleurs, cet oiseau qui n'est donc pas uniquement blanc, qui chantait de plus en plus fort, le trafic aérien mondial, quant à lui, n'a cessé de croître. Il est passé de quelques millions de passagers en 1950 à 4 milliards en 2017. La barre du milliard de passagers ayant été franchi en 1987. L'Association du transport aérien international, IATA, prévoit que le nombre de passagers aériens doublera en 20 ans. Et IATA évalue à 7,2 milliards le nombre de passagers qui voyageront en avion en 2035, soit près du double de ces 4 milliards de voyageurs aériens enregistrés en 2017. Cette prévision s'appuie sur un taux de croissance annuel moyen autour de 3,7%. La prévision concernant la croissance du nombre de passagers confirme que le plus important facteur de la demande sera la région Asie-Pacifique. Cette association du transport aérien, IATA, s'attend à ce qu'elle soit la source de plus de la moitié des nouveaux passagers au cours des 20 prochaines années. Ainsi, vers l'année 2029, la Chine devrait remplacer les États-Unis comme le plus grand marché de l'aviation au monde. L'Inde remplacera le Royaume-Uni au troisième rang, tandis que l'Indonésie entrera dans la liste des 10 premiers aux dépens de l'Italie et de la France. Et pourtant, en France, l'année 2017 a connu son meilleur taux de croissance annuel depuis 2011, avec 9,5 millions de passagers supplémentaires pour un total de 164 millions. Tout comme sur le nombre de passagers, Airbus vise un doublement de la flotte mondiale d'ici 2034, car il faut bien les transporter, ces passagers, et ce pour une flotte totale d'environ 36 000 avions, soit 19 000 avions supplémentaires, ce qui représente 112% d'augmentation entre 2014 et 2034. Cette croissance serait donc en partie tirée par l'Asie, qui représenterait alors 40% de l'accroissement de la flotte. Quant à l'augmentation du trafic aérien, un peu plus de 5 millions de vols aux instruments en 1990, plus de 10 millions en 2017, en France, plus de 3 millions en 2017. En conclusion, ce que j'ai essayé de vous faire ressentir aujourd'hui, ce que sont les enjeux, je dirais même les défis qui s'offrent à nous dans ce monde de l'aéronautique, qui intègre le contexte de la navigation aérienne et celui de la technique des avions. Oui, tous ces avions, il faut bien les faire voler, et ce, certes, en toute sécurité, mais aussi en assurant l'efficacité des vols tant voulus par les exploitants et les compagnies aériennes. Vous l'avez compris, et si j'ai tenu à faire ce lien avec ce symbole de l'oiseau blanc, en particulier avec l'appellation de cette émission, c'est qu'un tel domaine ne peut s'affranchir de la considération de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle j'essayerai, autant que possible, d'intégrer cette considération de l'humain au mieux dans nos revues de thèmes liées à ce monde de l'aéronautique, qui, pour parodier Claude Nougaro, pousse sa corne en Toulouse avec tant de passion. Ensemble, nous essayerons de vivre, de comprendre, de partager le vécu de ce domaine si passionnant qu'est celui de l'aéronautique, qui ne peut se concevoir sans la passion. Cette passion qui nous appartient de transmettre, cette passion si bien chantée par Linda Lemay.
Donnez-lui la passion, donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion avant de m'inviter dans votre grande maison, dans votre éternité. Ce sera sa bouée, son instinct de survie quand j'irai vous retrouver dans votre paradis.
Oui, cette passion est au cœur de l'enfance, est au cœur de l'aventure de l'aéronautique. Dans la prochaine émission, nous aurons donc cette interview de Michel Rétif, mécanicien navigant, qui a été l'une des pierres maîtresses de l'aventure Concorde. Vous verrez qu'à 94 ans, il saura nous intéresser et nous faire partager cette passion qu'il a accompagnée tout au long de sa carrière. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique notre très fidèle Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les autres qui suivront sur la page Facebook d'Occitanie Première, ainsi que sur le site de la station.